Eh bien, pendant que l'on recherche la présentation, je vais déjà commencer. Je vais commencer en vous remerciant de me donner cette opportunité d'être présent à cette réunion. J'espère que ceux qui ont déjà une bonne connaissance de tous les sujets liés à la pauvreté et aux familles auront la patience de m'écouter. J'espère que je vais vous faire part d'éléments neufs. Dans le passé, l'OCDE, eh bien, ces 10 dernières années, le travail sur les familles et les enfants a beaucoup évolué. Il ne s'agit plus seulement de faire part de chiffres ou de statistiques, mais nous avons des programmes spécifiques pour encourager l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Nous avons également encouragé l'adoption de politiques centrées sur les enfants. L'année dernière, nous avons également publié des documents pour améliorer la vie des familles. Nous envisageons une gamme de politiques différentes pour les familles et pour les enfants. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'année dernière, en marge de ces publications, nous avons organisé des réunions ministérielles dans différents pays et cela nous a permis d'encore renforcer notre travail déjà très chargé. Nous avons essayé de prendre en compte toutes les pièces du puzzle, notamment la solidarité intergénérationnelle que nous avons ajoutée à notre programme de travail l'année dernière. On n'a pas encore beaucoup avancé, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre attention. Je voudrais vous parler de la pauvreté et des politiques pour les familles en temps de crise économique. Énormément d'articles vous parlent de la crise dans les journaux, mais on parle très peu des données spécifiques qui démontrent réellement ce qu'il se passe. On parle beaucoup de prédictions, on a des prévisions, c'est ce qui se passe au niveau politique, mais j'aimerais qu'ensemble nous pensions aux objectifs de ces politiques qui sont adoptées dans les différents pays européens et voir si ces politiques nous aident réellement à améliorer la vie des familles. Très bien. Comme je vous l'ai dit au sein de l'OCDE, nous travaillons surtout sur 4 domaines différents liés aux politiques familiales. La fertilité, c'est un élément important de la durabilité. Le fait de maintenir un taux de natalité est important. Il faut que l'on atteigne un taux de remplacement. La solidarité intergénérationnelle va être affectée par cela. Le poids des pensions va être énorme. La génération qui naît actuellement, au milieu de sa carrière professionnelle, va devoir payer entre guillemets pour les pensions des personnes âgées et le poids des pensions va doubler. Il faut donc vraiment prendre en compte ce phénomène dans les pays de l'OCDE. Nous voulons également aborder le sujet du travail non utilisé et de la mobilisation. Il faut également améliorer l'égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est un élément essentiel pour le bien-être des familles. Il faut prendre en compte des politiques qui vont permettre d'avoir une meilleure vie au sein des familles. Et tout cela est lié aussi aux inégalités de revenus au sein même des familles. Donc, il faut bien évidemment améliorer l'égalité homme-femme pour mettre un terme à la pauvreté. C'est quelque chose dont on ne parle pas toujours, mais cette égalité homme-femme va nous permettre de mieux intégrer les femmes dans le marché du travail. Et l'OCDE vient de terminer un rapport sur l'égalité homme-femme dans les pays OCDE. Et ce rapport aborde notamment la situation aux États-Unis. Et peut-être que la future présidente Clinton, mais en tout cas Madame Hillary Clinton, la secrétaire d'État, dit que les femmes et les jeunes filles sont la ressource la moins utilisée, la plus sous-utilisée, si vous me permettez l'expression, dans les économies modernes. Et elle a tout à fait raison. Je vais me concentrer maintenant sur la réduction de la pauvreté des familles et l'amélioration du développement des enfants. J'ai tendance à parler très longtemps, donc je vais commencer avec des messages clés. N'hésitez pas à m'interrompre si vous estimez que je m'étends trop sur certains sujets, mais je veux vraiment partager avec vous les messages importants. Les familles subissent un risque plus accru de pauvreté dans la majorité des pays. Malgré de bonnes économies, des économies fortes avant la crise, les 20 ou 30 dernières années avant la crise, il y avait de fortes économies, mais il n'y avait pas réellement de réelle réduction de la pauvreté. Et maintenant, en temps de crise économique, la situation est encore plus grave. Les gouvernements essaient de consolider leur budget et c'est réellement une préoccupation. Si on n'arrivait pas à éradiquer la pauvreté quand on en avait les moyens, comment allons-nous le faire maintenant? Le bien-être des familles évolue de façon différente. Il y a des politiques qui sont bonnes pour certaines familles, mais pas pour d'autres. La pauvreté des enfants augmente aussi vite que les revenus moyens des familles. Donc les familles moyennes sont plus riches qu'auparavant, mais il y a plus de personnes qui vivent en situation de pauvreté. Et cela démontre qu'il y a une augmentation des inégalités. Et comme je vous l'ai déjà dit, on pourrait travailler davantage au niveau de la recherche. Nous devrions adopter de meilleurs indicateurs. Et je voudrais poser une question dès à présent et j'aimerais que vous la teniez à l'esprit. Je sais que la Commission européenne y travaille avec sa stratégie 2020, mais voilà la question. Est-ce qu'on pense sincèrement que les mesures de pauvreté, les indicateurs actuellement de pauvreté, sont réellement les indicateurs qui nous permettent de vraiment comparer ou d'avoir une bonne idée de la qualité de vie des familles? Est-ce que ces indicateurs sont suffisants ou est-ce qu'il nous en faut davantage? Moi, je pense que la majorité des recherches disponibles se basent sur les revenus. Et évidemment, c'est important, mais je pense qu'on peut faire mieux. Surtout si l'on veut passer à une approche plus proactive pour résoudre la pauvreté familiale. Peut-être que vous connaissez ces chiffres. Je suis désolée si c'est un peu rébarbatif pour certains d'entre vous. Il s'agit ici de données datant de 2009. J'ai essayé de calculer les données pour 2010, mais je n'ai que des données provisoires et non confirmées. Donc voilà donc les données jusqu'à 2009, un an après l'apparition de la crise. On peut voir ici les points qui représentent la pauvreté des enfants et les barres représentent la population totale. Et dans les États membres européens, la pauvreté des enfants atteignait 20% alors que la pauvreté de la société en général atteignait 16%. La pauvreté est mesurée comme la proportion de personnes qui vivent avec un revenu qui est 60% en deçà de la moyenne. Il s'agit du revenu moyen, donc. Et il s'agit d'un seuil très élevé comparé au seuil utilisé au sein de l'OCDE. À l'OCDE, on utilise un seuil de 50% du salaire médian et pas 60%. Donc cela démontre qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie d'échelle et des foyers. Donc plus d'enfants vous avez, moins d'argent et il est nécessaire pour élever le dernier enfant. Le coût marginal est différent. Voilà donc quelques comparaisons. À Chypre, pardon, la situation est assez bonne. Le Danemark et la Finlande ont des politiques concentrées sur les familles en situation de risque. On en parlera un peu plus tard. La Hongrie, le Luxembourg, la Roumanie, ce sont des chiffres particulièrement élevés comparés à la population totale. Ici, on montre comment les systèmes tentent de réduire la pauvreté des enfants comparée à la population locale. Si on arrivait à un chiffre de 100%, cela signifierait que le système éradique, pardon, la pauvreté, mais personne n'arrive à ce chiffre. Les meilleurs chiffres s'approchent des 70%. En moyenne, dans l'Union des 27, on essaie de réduire la pauvreté de 16% et la pauvreté des enfants, c'est moins de 50%. J'aimerais vous montrer encore un graphe. Il n'y a qu'un seul pays au sein de l'Union européenne qui réduit effectivement la pauvreté des enfants et qui la réduit mieux que la pauvreté de la population dans son ensemble. C'est un seul pays, c'est la Norvège qui a les meilleurs résultats en termes de réduction de la pauvreté des enfants. C'est eux qui ont les meilleurs résultats. Et je voulais revenir sur un des commentaires de Renata sur l'éradication de la pauvreté. Il y a certains pays qui ont adopté des objectifs de réduction de la pauvreté des enfants, notamment l'Irlande. Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? Non. Est-ce qu'ils ont parlé d'éradication? Oui. Mais qu'est-ce que cela signifie quand ils parlent d'éradication? Pour nous, cela signifie qu'il faut s'assurer que personne ne vit en situation de pauvreté. Mais la Grande-Bretagne a dit que l'éradication représente avoir un des meilleurs taux de pauvreté en Europe. Et le meilleur taux de pauvreté en Europe, c'est 9%. Et ça veut dire qu'un enfant sur 10 vit dans la pauvreté. Et ça, en tout cas, je pense que c'était peut-être un peu trop élevé. On est encore loin d'atteindre des bons résultats. Et voilà ici des différences en Europe. Au premier abord, on a la sensation que ce n'est pas énorme, mais les écarts sont très grands d'un pays à l'autre, entre la Finlande, par exemple, et la Roumanie. Les enfants sont en situation beaucoup plus risquée que la population moyenne. La persistance de la pauvreté monétaire des enfants, on constate ici que les enfants sont toujours plus à risque que les adultes. Il y a une pauvreté latente qui dure plus longtemps chez les enfants. Ici, vous pouvez voir que la Slovaquie, Malte, la Hongrie, la Pologne et l'Espagne sont les pays où la pauvreté latente est la plus élevée quand on parle des enfants. Alors, la pauvreté, les tendances de risque âge par âge, vous pouvez voir ici les tranches d'âge, ces lignes ici, ces graphes en tout cas, ont différentes échelles. Je ne veux pas vous perturber, mais on montre ici trois différentes années de taux de pauvreté par âge. Par exemple, on peut voir qu'au Danemark, la pauvreté des moins de 18 ans est moins élevée que la pauvreté des personnes de plus de 65 ans. Au niveau de l'Union européenne, il y a des écarts. Le risque de pauvreté chez les populations jeunes a augmenté ces dernières années, alors que les risques de pauvreté chez les retraités diminuent. Dans les pays OCDE, on peut avoir différents groupes d'âge et le plus choquant, c'est les pics que l'on constate chez les jeunes. Pas seulement les jeunes qui viennent de finir leurs études, mais également des jeunes qui veulent fonder des familles. Ce sont eux qui subissent le plus de risques et ces risques augmentent fortement. Voilà pourquoi nous demandons des politiques plus exhaustives et plus complète pour les jeunes, pas seulement des politiques pour le marché du travail, mais des politiques pour toute la vie. Encore d'autres tendances. On peut voir ici les tendances des taux de pauvreté dans les régions OCDE entre la moitié des années 80 jusqu'à présent. On peut voir en rouge les tendances des pays OCDE. Depuis les années 80, la population mondiale augmente et le niveau de pauvreté reste plus ou moins constant. Cela démontre bien que nos politiques ne sont pas suffisamment efficaces et qu'il faut en faire davantage. Il y a des pays qui ont traditionnellement des bons scores, notamment les pays d'Europe du Nord, mais il n'y a pas vraiment eu de changement significatif des taux de pauvreté. L'échelle des parents seuls également, les familles monoparentales, on peut voir que la tendance ne s'améliore pas non plus. On y reviendra un peu plus tard. Je voudrais également parler de la dernière description de la pauvreté en Europe et des objectifs de l'Europe 2020. J'ai pris les pays du top 5 et les 5 derniers pays avec 3 indicateurs qui sont repris dans les objectifs de l'Europe 2020. À gauche, vous pouvez voir les personnes qui ont les 3 problèmes: pauvreté, personnes qui vivent dans des situations de manque et au milieu des personnes qui ne sont pas pauvres, mais qui ont des problèmes matériaux, et à gauche, pas pauvres, pas en manque, mais avec une intensité professionnelle très basse. Comme je vous l'ai dit au début, on peut comparer la pauvreté dans les différents pays en utilisant des indicateurs. On essaie toujours de comparer les mêmes choses, mais ce n'est pas toujours évident. Ce qui constitue la pauvreté dans différents pays est différent, et voilà pourquoi nous avons besoin d'approches politiques différentes pour nous adapter aux situations, aux différentes réalités. Il faut prendre en compte, on pourrait avoir des aspects communs, mais on ne peut pas dupliquer une politique qui fonctionne dans un pays, dans un autre pays, sans l'adapter à la réalité nationale. On constate ici qu'il y a certains pays, on pensait que certains pays seraient bons dans la lutte contre la pauvreté, mais au final, ils se retrouvent dans les pays qui ont les moins bons résultats. Et d'autres pays, à contrario, on aurait pu croire, comme la Bulgarie et la Lettonie, on aurait pu croire que les risques de pauvreté y étaient beaucoup plus importants, mais au final, ils se retrouvent dans le top 5. Et cela démontre, je pense, que la Bulgarie et la Lettonie ont peut-être des taux de pauvreté, des risques assez élevés, mais qu'au final, peu de personnes vivent en situation de pauvreté. Alors qu'au Danemark, si vous vivez en situation de pauvreté, le ressenti est bien plus important. Voilà pourquoi il faut adopter une politique intégrée pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de pauvreté monétaire? Pour quels sont les problèmes? Comment est-ce qu'on peut mettre cela derrière nous? Eh bien, on parle souvent de problèmes avec des indicateurs qui permettent d'avoir une meilleure politique. Moi, je peux évaluer plus facilement mes politiques anti-pauvreté en me basant sur l'argent. Je peux essayer d'estimer les transferts ou en tout cas les fonds octroyés à la lutte contre la pauvreté et ainsi j'aurai une récompense politique. Est-ce que j'ai vraiment envie de penser à long terme, d'investir sur 15 ans? Est-ce que c'est mon problème en tant que politique? Non. Et quand on parle de pauvreté monétaire, il y a également des gros problèmes au niveau des rapports. Souvent, les rapports ne sont pas suffisants et assez précis. J'ai moi-même effectué des recherches pour des rapports sur des rapports liés à la pauvreté en Grande-Bretagne et les informations n'étaient pas suffisantes. N'hésitez pas à lire les enquêtes publiées au niveau national dans vos pays et vous serez étonné de voir qu'on prend très peu en compte les populations roms, les jeunes, les prisonniers, etc., etc. Quand on s'attarde sur les enquêtes sur les enfants, il est étonnant de constater le nombre d'enfants qui sont effectivement pris en compte ou avec lesquels on organise des entretiens. Il est quand même étrange de savoir qu'on fait des études sur des populations à risque, mais qu'au final, ces populations à risque ne sont pas intégrées dans les études. Il y a différents seuils adoptés arbitrairement, des seuils par rapport à l'âge, au handicap, au niveau de revenu. Mais est-ce qu'ils sont les plus adéquats? Quand on a Souvent, ces seuils ou ces indicateurs ne sont pas suffisants et ne permettent pas de prendre en compte certains sujets. Quand on parle de la qualité de vie des familles, évidemment, on n'en parle pas suffisamment. Et souvent, toutes ces données ne représentent pas un véritable progrès social. Si on arrive à éradiquer la pauvreté, est-ce qu'on vivra vraiment dans un meilleur monde ou est-ce qu'on devra faire face à un autre problème? Il faut vraiment répondre à toutes ces questions. Alors maintenant, je vais vous parler des politiques. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. C'est un peu compliqué. Mais on va se concentrer sur la partie de gauche, la France, le Royaume-Uni et la Suède, les trois premiers pays qui dépensent davantage pour les familles que n'importe quel autre pays européen. Les points ici vous montrent ce que ces trois pays ont dépensé en 2003. La couleur des points vous montre ce qu'ils ont changé. En gros, ici, ils ont augmenté les allocations monétaire. Si S'il s'agit de points bleus, cela signifie qu'on a surtout changé les différents types de services octroyés. Et si c'est bleu clair, il s'agit de réduction fiscale pour les familles. En noir, il s'agit d'argent, c'est-à-dire des allocations alimentaires ou autres. En France, en Grande-Bretagne et en Suède, on sait que les taux de pauvreté dans ces pays sont différents, même s'ils dépensent quasiment la même chose. Alors, combien dépense-t-on pour vraiment éradiquer la pauvreté des enfants? Si ces pays dépensent vraiment la même chose, qu'en est-il des résultats? Peut-être que la Grande-Bretagne a un taux de pauvreté beaucoup plus élevé que la France ou que la Suède, mais vu qu'ils dépensent la même chose, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi n'ont-ils pas le même taux de pauvreté? Et il faudrait peut-être analyser comment ils dépensent leur argent. Comme je vous l'ai déjà dit, bleu foncé, noir, bleu normal, les services, et bleu clair, des réductions fiscales. Regardez, leurs dépenses sont tout à fait différentes. La Suède dépense 2/3 dans les services, le Royaume-Uni, c'est surtout en aide monétaire. On va passer ce transparent-ci, on n'a pas le temps. À l'OCDE, nous savons que la pauvreté des enfants est vraiment différente d'un pays à l'autre. Nous savons qu'il existe différentes politiques, mais nous voulions pouvoir répondre à certaines questions pour réduire la pauvreté des enfants et des familles. S'agit-il de savoir combien on dépense, comment on dépense cet argent ou quand on dépense cet argent? Et vous pouvez voir ici quatre graphes différents sur la façon dont on dépense l'argent disponible. En haut à gauche, ce sont les réductions fiscales, les diminutions fiscales et les allocations par enfant comparées au taux de pauvreté. Ensuite, vous avez l'attention, le soin des enfants en haut à droite. En bas à gauche, d'autres allocations ou subventions et en bas à droite, toutes les dépenses publiques pour les familles. Et vous pouvez voir en bas à droite, pardon, que par enfant, les dépenses dans les pays de l'OCDE vont de 25 000 à plus de 125 000 dollars par enfant et par an. Les pays qui sont en dessous, les points en dessous de la ligne, ce sont des pays qui ont où les taux de pauvreté des enfants sont les plus élevés. Et donc, il faut prendre en compte la situation pays par pays. Nous voulions également répondre à la question du quand dépenser. Ce que l'on fait va dépendre de la position de la famille dans le cycle vital. Quand est-ce que l'enfant est conçu? Quand est-ce que l'enfant est né? Comment s'occupe-t-on de l'enfant? Quand est-ce que l'enfant entre dans les systèmes de garde d'enfants? Quand est-ce qu'il rentre dans les systèmes scolaires? Quand est-ce qu'il rentre sur le marché du travail? Donc, il y a différentes politiques. Donc, nous avons décidé de répartir les politiques dans différentes catégories et de répartir les fonds nécessaires également dans chaque catégorie. Et on voit que l'éducation, c'est en bleu clair. Et voilà ce que l'on a appris. Premièrement, à travers l'OCDE et à travers l'Europe, 3 euros sur 5 sont liés aux dépenses pour l'éducation. Et donc, on attend 5 ou 6 ans avant de réellement dépenser le plus gros de l'argent. Est-ce que c'est une bonne idée? On n'a pas encore trouvé la réponse, mais c'est quelque chose à laquelle on doit penser.
Et on peut voir pour le Royaume-Uni qu'il y a un décalage entre 1 et 3 dans le soutien public. C'est un décalage assez profond. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'une famille fait quand elle n'a pas d'assistance, de soutien pour faire garder son enfant? Il n'y a pas de politique continue et de système vraiment solide dans certains pays qui dure sur un cycle de vie. Le microphone ne fonctionne pas correctement. Il faudrait peut-être le signaler. Merci. C'est donc une ligne très mince, une frontière. Je sais. C'est peut-être un signe, je m'étends trop là, je suis trop long, donc j'ai compris l'allusion. Donc je crois qu'il s'agit d'une question de dépenses publiques. On doit répartir les dépenses en garde d'enfants et allocations avec différents résultats. Vous voyez ici la ventilation avec voilà, les taux de mortalité, de pauvreté, etc. Le message ici, c'est que finalement, on en est au premier balbutiement, au tout début, pour pouvoir étudier le cas économique, le cas commercial de ce système de soutien. Et c'est vraiment les premières années où on dépense le plus. Quand on répartit entre pauvreté de l'enfant, indicateur de l'enfant et les résultats pour les familles, voilà, par exemple, on voit ici Gender Wage Gap, donc décalage de salaire entre hommes et femmes 2008, etc. Vous voyez un petit peu les résultats et où est-ce que les dépenses sont les plus importantes. Voilà, c'est un graphique très complexe, très compliqué, où on reprend les impôts et les bénéfices à travers les pays de l'OCDE et en prenant en compte l'âge des enfants. Donc, vous voyez que le niveau de présence dans le marché du travail est au plus bas au niveau donc de la naissance des enfants et finalement le risque de pauvreté est le plus grand lorsque l'attachement, le lien au marché du travail est le plus faible, c'est-à-dire lorsqu'on a un enfant très très jeune, très bas âge. Et le risque de pauvreté pour les familles est directement lié à l'âge des enfants, comme on peut le voir ici. Si on en descend en dessous de 1, de niveau 1, eh bien on est en dessous du seuil de la pauvreté. Et si on est à 6, on est 6 fois au-dessus du seuil de la pauvreté. On peut avoir deux personnes qui travaillent 50% du salaire moyen, deux personnes dans la même famille, et on peut être dans une situation de pauvreté, non seulement pauvreté, mais pauvreté persistante, selon où on se situe dans ces groupes, dans ces classes, selon l'âge de l'enfant et les facteurs de risque. Si vous êtes donc parents célibataires ou parents seuls, eh bien le risque est encore plus grand. Dans certains pays, il n'y a rien de prévu, aucun soutien, aucun réseau social et vous allez être en situation de pauvreté absolue, persistante, continue. Dans certains pays, on arrive avec un mi-temps à être juste au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà un graphique sur les effets relatifs et les efforts communs. On voit un peu l'influence des services de garde d'enfants et l'effet que ça a sur l'indice de pauvreté des enfants en pourcentage et sur plusieurs pays. Si on prend que les services, on arrive à 12% before cash, after cash, donc avant cash, après cash, transfert de liquidité à travers ces services. En Suède, vous voyez un petit peu le niveau d'intervention dans les premières années, pendant les premières années des enfants. Et au Royaume-Uni aussi, grosses dépenses qui débouchent sur une approche dans l'ensemble assez positive. Dans les pays de l'OCDE, dans l'ensemble, on n'a pas les données pour la France, il nous manque des données pour la France, mais dans les pays de l'OCDE en général, l'accès des soins de la garde des enfants, normalement, ne repose pas sur les différences de salaire, sur les revenus. C'est très bon, c'est un signe très positif au moment d'entrer dans le marché du travail, la distribution entre différentes classes et l'association avec la pauvreté des enfants. Et ce dernier transparent illustre en fait le soutien, comment la couverture des frais comptent finalement. Je ne sais pas si on peut parler, quel terme on peut utiliser, de ventilation des familles. Je crois qu'il faut être très prudent quand on parle de tels sujets. Ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est que certaines politique visant à réduire la politique de réduction de la pauvreté, pardon, visant à réduire la pauvreté des parents et des enfants sont plus efficaces que d'autres et arrivent plutôt à réduire le niveau de recettes de revenus. Si moi, en tant qu'État, je facilite un contrat légal entre le parent qui paye directement l'autre parent, le premier parent au deuxième parent, eh bien, je recule un peu. Ce qui, en fait, se débouche sur une pauvreté accrue. Comme vous voyez sur la gauche, par rapport à la droite, il y a une légère baisse de la pauvreté par rapport au taux de couverture sur la gauche, donc les avantages des allocations et le niveau des paiements. Cette couverture est associée à la réduction de la pauvreté, mais pas au niveau de dépenses. Il s'agit de faire arriver l'argent à ceux qui en ont le plus besoin plutôt que de déterminer que, voilà, on va arriver à 30% de votre revenu disponible. Non, ce sont des comptes sur base de la couverture, de couverture qu'on souhaite. Le Danemark, par exemple, est un modèle dans ce sens, avec un taux de couverture très élevé, pas un taux de paiement élevé, mais un taux de couverture. C'est une politique très donc abordable, qui donne de bons résultats. Maintenant, concernant l'efficacité au niveau d'encouragement, mesure d'encouragement au travail, on ne peut pas trop évaluer son efficacité. Mais au niveau de la réduction de la pauvreté, oui. Je crois qu'il faudrait prendre exemple sur le modèle danois. Et voilà, quelques liens pertinents, utiles pour vous sur cette question. Merci.